Bonjour tout le monde. Et étant donné que nous avons passé des événements exceptionnels, puisque nous avons dû étudier le Distévète et puis le christianisme, ça, maintenant, nous allons revenir à nos pénates. Ouais. Très bien, très bien. Ouais. C'était traduit en hébreu d'ailleurs.
Ouais.
Je voulais dire du bien de la traduction, mais non, c'est raté. Bon. Et donc nous allons reprendre notre étude de la tefila, de la prière. Je crois que nous avons fait la dernière fois une étude de la première bénédiction, je crois. On est arrivé jusqu'au bout? Je crois pas, non? Ah, on est arrivé jusqu'au bout, c'est très bien. Et bien donc nous allons passer à la deuxième. Oui. La première bracha, hein, dans le Shmoneh Esrei, dans la Amida, a pour but d'expliciter qui est celui à qui la prière est adressée. C'est-à-dire que la première bénédiction répond à la question « qui ?». Et la deuxième bénédiction va répondre à une autre question qui est « quoi ?». En d'autres termes, que peut-il me donner celui à qui j'adresse la prière, qui est le Dieu des Avot, qu'est-ce qu'il peut me donner? Et la réponse, il peut me donner ce qu'on appelle des gevurot. Gevurot, ça veut dire, en hébreu moderne, on dirait yecholot, en français, des capacités. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'on va devoir expliquer quelle est la capacité de Dieu. Sa capacité est infinie, il peut tout, quoi. Enfin, il n'y a rien de extraordinaire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette histoire de gevurot? Et effectivement, la Guémara elle-même pose la question dans le traité de Ta'anit, est-ce qu'on peut faire la liste des capacités de Dieu? Miyemalel Gevurot Hashem, qui peut raconter les puissances ou les capacités de Dieu? Et la réponse de la Guémara est que on a inclus dans la bracha, dans la bénédiction, de la deuxième bénédiction de l'Amida, uniquement des capacités qui sont équivalentes à la résurrection des morts. Pourquoi avoir pris la résurrection des morts comme étant, disons, l'indice de la capacité d'Akadosh Baruch Hu? C'est parce que c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est-à-dire, s'il y a résurrection des morts, alors ça veut dire que c'est la vie qui gagne. S'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que c'est la mort qui gagne. C'est-à-dire, on peut dire la foi en la résurrection des morts n'est pas quelque chose n'est pas quelque chose de véritablement exceptionnel si on va jusqu'au bout de la foi monothéiste. C'est-à-dire si Dieu est véritablement un et qu'il est véritablement bon, il est impossible que ce soit la mort qui l'emporte. Vous vous rendez compte de ce que ça voudrait dire? Sinon, ça veut dire que tout marche. Tout avance, mais finalement, la mort est plus forte que tout. Il y aurait donc un autre Dieu, qu'à Dieu ne plaise, serait la mort et qui vaincrait tout. Et donc, il est très important de comprendre que finalement, c'est la vie qui gagne, et donc la résurrection des morts est indispensable. Maintenant, tout le reste, hein, toutes les capacités sont des dérivés de cette capacité-là, de la résurrection des morts. Oui. Cette quoi? Cet autre. Ah, c'est quoi le Olam Haba, tu demandes? Le Olam Haba, c'est la continuité. Ça continue. C'est comme, par exemple, quand un enfant, dans le ventre de sa mère, essaie de comprendre ce qui se passe après la naissance. Qu'est-ce qu'il en sait? Pas grand-chose. Il a une intuition. C'est-à-dire, il a le sentiment, peut-être, l'idée, que ça continue après. Mais comment? Toutes les idées qu'il peut se faire, zéro. Imaginez-vous deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Alors, comme ils ont du temps à perdre, ils discutent de philosophie. Il y en a un qui dit, je crois qu'il y a une vie après la naissance. Il lui dit, non, ça ne va pas la tête. Il a mis les arguments rationnels. Il dit, c'est impossible qu'il y ait une vie après la naissance, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que là-bas, il n'y a pas de cordon ombilical, donc il n'y a pas de quoi se nourrir. À part ça, il n'y a pas de liquide amniotique là-bas, donc on va étouffer avec l'oxygène qu'il y a là-bas. Et puis, il n'y a pas de quoi manger. Et puis, à part ça, les objets sont durs là-bas. On va être blessé. Sans parler du fait que la température est très basse. Donc, nous allons mourir de froid. Et puis à part ça, tu vois bien que tout ce qui va par le trou noir là qu'il y a au fond ne revient jamais. D'accord ? Donc il y a une série d'arguments rationnels pour expliquer qu'il n'y a pas de vie après la naissance. À la fin du 9e mois, alors ça commence à bouger, celui qui croit en la vie après la naissance sort, et tout le monde dit « Ah, Mazal Tov, comme il ressemble à son grand-père, etc. Voilà. » et puis l'autre dit « Non, moi je ne suis pas fou, je reste là. »
Il ne sort pas. L'au-delà,
oui, évidemment, non. La question qu'il posait n'était pas sur la résurrection des morts. Ah. Il a demandé c'est quoi l'autre vie ?
La vie après la mort, il voulait dire.
La vie après la mort, c'est ça qu'il voulait dire. La vie après la mort, c'est la continuité de la vie.
C'est pas la résurrection des morts.
La résurrection des morts, c'est que tout est récupéré. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme absolu. Tout peut être rachetable. D'accord ? Alors évidemment, c'est par des voies extrêmement biscornues, des circonvolutions, mais finalement on y arrive. Tout est rachetable, tout est réparable. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit la femme sage au roi David de Tekoa. Elle lui a dit « Vechashav machashavot levilti idach mimenu nidach ». Il a inventé des stratagèmes pour que rien ne soit perdu. C'est par exemple quand on verse de l'eau sur le sol, flap. C'est extrêmement navrant cette histoire de jeter de l'eau sur le sol. Parce que c'était dans un seau, et maintenant, c'est sur la terre. Essayez de ramasser tout ça. D'accord ? Il faut pour ça un torchon. Ça, c'est pas si simple. Alors, il y a des torchons divins qui sont faits pour récupérer toute l'eau qui a été répandue. L'eau des Neshamot. Voilà.
Bon, c'est...
Ah, parce que la raison des morts, pour y arriver, il faut la mériter. Alors, un problème, c'est que tout le monde ne mérite pas. Alors, on va nous obliger à mériter. Ah ben c'est très compliqué, ça peut être le Gilgul, ça peut être le Guinam, ça peut être des tas de choses. Des tas de choses. En tout cas, ça s'étend sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'années, ces trucs-là. Comment est-ce que les réparations se font? Mais ça se fait. D'accord? Par exemple, je veux dire, pour un truc beaucoup plus banal, pas forcément la résurrection des morts, pour avoir l'intuition de ça. Il y avait un rabbin à Amsterdam, en l'an 1640. Il s'appelait Rabbi Menaché Ben Israël. Il a été, son portrait a été fait par Rembrandt. Donc ça intéresse. Bon, c'est vrai, hein, Rabbi Menaché Ben Israël. C'était un grand type. Il est arrivé à la conclusion, en lisant dans les prophètes, que la Géoula ne viendra que s'il y a des Juifs en Angleterre. Des Juifs en Angleterre. Oui, il est arrivé comme ça, en lisant les prophètes, il est arrivé à cette conclusion. Parce qu'il dit que viendra un temps où dans les îles lointaines, on racontera ma gloire, etc. Les îles lointaines, ben c'est quoi? Ben c'est l'Angleterre, c'est l'île, c'est lointain, etc. Et donc il est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'il y ait des Juifs en Angleterre. Or, depuis le Moyen-Âge, il n'y avait plus de Juifs en Angleterre, il y avait une expulsion. Très embêté, Rabbi Menaché Ben Israël, c'était après l'expulsion d'Espagne, il y avait une très grande agitation, on peut dire, messianique à l'époque. Il s'en va voir Oliver Cromwell, qui était le protecteur de l'Angleterre à l'époque. Ils avaient coupé la tête au roi, bien avant Louis XVI. C'est-à-dire les Français pensent toujours être les premiers. Non, les Anglais les ont précédés. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. Ah oui, Charles Ier, hein, il s'est fait couper la tête.
Ouais.
Comment ? Oui, oui, d'accord. Ben, oui, parce qu'après, ils ont ramené le fils. D'accord. D'accord. C'est comme Louis XVIII, en fait, la même chose. Et en tout cas... il y avait donc le chef de la République britannique de l'époque, c'était Oliver Cromwell, et Rabbi Menaché Ben Israël va le voir, il lui demande d'autoriser les Juifs à ouvrir une communauté à Londres. Et c'est comme ça qu'a été établie la première communauté, séfarade d'ailleurs, à Londres à l'époque. Et le Rav Kook dit, dans une de ses lettres, que Rabbi Menaché Ben Israël avait raison. Pourquoi est-ce qu'il avait raison? Ben parce que c'est parce qu'il y avait une communauté juive à Londres lors de la déclaration Balfour, qu'il y a eu un lobby pour cette déclaration et que le retour d'Israël a été possible, retour politique. Mais ça a pris 400 ans. Mais c'est-à-dire que parfois la Hashgacha, elle réfléchit très loin. D'ailleurs, ça prend 400 ans pour y arriver. D'accord ? Petite remarque d'ailleurs, à l'époque, il y avait un débat parmi les juifs de Londres. Est-ce qu'il fallait être favorable au sionisme ou pas? Ça a failli empêcher la déclaration Balfour. Et il y avait là-bas des juifs assimilés qui ne voulaient absolument pas parler, entendre parler du sionisme parce que c'était refuser en fait l'assimilation à l'Angleterre. Et le Rav Kook, à l'époque, qui était à Londres comme par hasard, a fait des grandes déclarations. Comment? Il n'était pas piégé à Londres, il était arrivé, il était parti à la veille de la Première Guerre mondiale. Il était parti en Europe pour participer à la grande conférence de l'Agudat Israël. Et puis la Première Guerre mondiale éclate, il était en Allemagne à ce moment-là, il se fait mettre en prison en tant que ressortissant russe, donc allié des ennemis. Et finalement, il se fait libérer, il arrive en Suisse. Il reste là-bas coincé pendant un an et demi. La communauté de Londres entend dire que le Rav Kook est là. Dit, est-ce que tu ne veux pas être rabbin chez nous? On a besoin d'un rabbin. Il est d'accord, à condition que dès que la guerre est finie, je rentre. Voilà. Bon. Alors il y est. Là, vient les troupes britanniques se rapprochent d'Eretz Israël. Il y a le débat autour de la déclaration Balfour. Et le Rav Kook œuvre en faveur de la déclaration Balfour. Et au Parlement britannique, on dit, qui faut-il croire pour ce qui est du judaïsme? Parce qu'il y a tout un débat si le judaïsme, c'est alors une religion ou une nationalité. Alors, est-ce qu'il vaut mieux croire le Rav Kook, qui a l'air vraiment d'un juif, ou bien le Lord Montefiore, qui était assimilé? Il dit, bon, c'est lui qui a raison. Bon. Alors, maintenant, il y a un petit problème. C'est qu'à l'époque, il y avait également des rabbins d'Allemagne qui étaient opposés au sionisme, pour des raisons idéologiques, qui ont voulu également présenter leur position au Parlement britannique. Mais ils ne pouvaient pas arriver, puisqu'ils étaient allemands, et que l'Allemagne était en guerre avec l'Angleterre. Mais le Rav Kook, qui était russe, lui, c'est un allié. Donc on le laisse parler. Vous avez compris le truc? C'est-à-dire que l'Ashgaha, elle arrange beaucoup de choses. C'est des circonvolutions. Parce que vous savez, il fallait qu'il y ait donc la question d'Orient, à la fin, au début du 19e siècle, enfin tous ces trucs-là. Bon, voilà, bon. Oui. Alors, est-ce que le Gilgoul, ça appartient à la résurrection des morts? C'est une forme de résurrection. C'est pas la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est un événement gigantesque de fin d'histoire, enfin même de fin de monde. Mais disons qu'il est à peine perceptible, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est qu'une vie sans mort. Ça n'existe pas chez nous. C'est quoi vivre sans mort? Quand je dis que quelque chose est vivant, je le définis par rapport au non-vivant. D'accord? Et vivant, ce qui n'est pas mort. Et mort, ce qui n'est pas vivant.
Effectivement.
Bon, il y a eu des grands spécialistes de la question qui ont dit qu'ils n'ont pas réussi à trouver une définition de la vie. C'est vrai. Bon, mais c'est quelque chose, disons, d'à peine appréhensible. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est vraiment que la résurrection des morts, puisqu'on n'avons pas vécu un événement de ce genre. Oui. Oui, quoi? Allez, vas-y, cause. Disons que c'est l'aboutissement du tikkun, c'est l'aboutissement de la réparation. Oui, bien sûr. Oui, le Gilgoul, ça fait partie du chemin vert. Oui, aussi, les souffrances aussi, ça fait partie de ça. Oui. Après le Mashiach, il y aura toujours des Gilgoulim. Oui, bien sûr. Maintenant, oui, bien sûr.
Bien sûr.
Oui, disons que la résurrection des morts, c'est un aboutissement, c'est une transformation du monde, une transformation cosmique. D'accord? Ça, c'est quelque chose, disons, extrêmement loin de nos catégories de pensée, de vie, etc. D'ailleurs, il ne faut pas prendre ça, de manière infantile, bien que tout est possible, mais enfin, c'est difficile à comprendre ce que c'est exactement. En tout cas, donc, je reprends ici l'histoire de la capacité d'Akadosh Baruch Hu, qui est équivalente à la résurrection des morts, ce qui revient pour nous à l'essentiel, c'est de savoir que rien n'est perdu, ni la vie du corps, ni la vie de l'âme. D'accord? Bon, revenons maintenant donc au texte de la bracha. Je voudrais l'étudier avec vous. Je vais le lire d'une certaine manière. Vous allez me dire si vous avez remarqué quelque chose. Ata gibor, le'olam Adonai, mechaye metim, ata. Rav le'oshia, mashiva wachomori de geshem. Mechalkel chamim bechesed, mechaye metim, berachamim rabim. Somer chofim bofer kol matir asur mekim, umkayem emunato li shene afar. Micha mocha baal givorot umido melach, melech memit umchaye umatsviach yeshua. Venemata la chayot metim. Oh, attaché à Mechaye Ametim. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une expression qui est revenue plusieurs fois? Mechaye Ametim. Oui, c'est surprenant, cinq fois dans le même texte, qui est un texte assez court, on parle de Triat Ametim, résurrection des morts. C'est un peu louche, hein. C'est suspect. C'est, oui, pourquoi le dire cinq fois? T'as qu'à dire, une fois. C'est... Hein? Pour montrer que c'est très important. Alors fais-le dix fois. Ça veut dire qu'il y aurait cinq manières différentes de Triat Ametim, c'est ça que ça veut dire. Alors, essayons de voir à nouveau le texte, tout va s'expliquer maintenant. Ata Gibor le'olam Adonai. Gibor, ici, veut dire vaillant, puissant. C'est-à-dire, tu as la puissance. Vous vous rappelez qu'on avait donné une définition du Gibor la dernière fois? Ezeu Gibor? Akovesh et Yitzro. Qui est celui qui est héroïque, qui est vaillant? C'est celui qui domine son instinct. Ça veut dire celui qui réprime sa tendance naturelle. Bon, Akadosh Baruch Hu n'a pas de tendance naturelle, mais c'est quoi son Yetzer? C'est d'être absolu, c'est d'être tout. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'infini ne laisse pas de place à un autre, et quand il laisse la place à un autre, c'est-à-dire qu'il surmonte son infinité pour donner l'existence à l'être. C'est ce que les kabbalistes appellent le Tzimtzum, la restriction, la rétraction. Mechaye metim ata. Alors, le mot mechaye, en hébreu, veut dire deux choses. Il peut vouloir dire celui qui ressuscite, mechaye, c'est-à-dire il ressuscite. Mais ça peut vouloir dire également il vivifie, celui qui donne la vie maintenant. N'est-ce pas? C'est le même mot pour deux choses différentes. Là, c'est au présent, pas au futur, n'est-ce pas? Mechaye metim, c'est au présent. Il faut donc comprendre que Mechaye metim est un événement actuel, du présent. Alors, il ne peut pas s'agir de la résurrection des morts, étant donné qu'elle ne s'est pas encore produite. N'est-ce pas? Alors, si qui les morts dont Akadosh Baruch Hu fait ici la vivification? C'est nous. C'est-à-dire, il vivifie les morts, c'est-à-dire nous. Vous avez compris ce qu'il dit là? C'est-à-dire, n'était-ce la vie qui nous est donnée, nous n'aurions pas d'existence. On veut dire que c'est la conséquence directe du monothéisme. Akadosh Baruch Hu est un, donc il est en tout. Donc, s'il ne me donnait pas la vie, eh bien je serais mort. Ce qui veut donc dire que je suis un mort vivifié. Je suis branché sur une machine en permanence. Mechaye metim ata. C'est, disons, le constat de ce qui se passe en permanence. C'est que la vie nous est donnée en permanence. Oui. Quoi? Léolam veut dire éternellement. Éternellement. Pour toujours. Oui. Mais le mot olam veut dire également, en hébreu rabbinique, pas en hébreu biblique, ça veut dire le monde. C'est-à-dire, puisque tu es vaillant, tu donnes la vie au monde. D'accord? Donc, mechaye metim ata. Tu es vivifieur. Vivificateur des morts, Rav Léoshia, grand a sauvé. Et là vient donc la petite phrase qu'on rajoute quand c'est en hiver ou quand c'est en été. Ça dépend des minagim, mais différentes manières de dire tout ça. Par exemple, dans le texte séfarade que j'ai devant moi, Mashiv Aruar Humori Dageshem. Que veut dire Mashiv? Ah, erreur. En hébreu, meshiv veut dire il ramène. Mais mashiv, ça veut dire il fait souffler. Vous en faites pas, il y a beaucoup d'Israéliens qui ne savent pas cette différence. Il y a le dagesh dans le shin et un patar sous le même. Mashiv, c'est comme s'il y avait. La racine c'est nashav, nun shin bet. Le nun est éludé, il est remplacé par un dagesh. Très très bien. Vous faites ça à l'ulpan? Ah bon, d'accord, bon. Alors, Mashiv Aruach Humori Dageshem, qui fait souffler le vent et fait descendre la pluie. Le mot Geshem veut dire la pluie. Très bien. En hébreu moyenâgeux, le mot Geshem a reçu une autre signification. Ça veut dire la matière. Gashmi, Gashmiut. Mais ce n'est pas en hébreu originel, ça vient de l'arabe. Jism, qui veut dire un corps en arabe, ça a donné en hébreu rabbinique du Moyen-Âge, Geshem, pour dire le matériel. Mais dans l'hébreu de la Tfila, qui est un hébreu des prophètes, Geshem veut dire la pluie. D'accord ? Ça, pour que vous sachiez que l'hébreu est fait de plusieurs strates. Ça, vous avez au moins 5 formes différentes d'hébreu. Vous avez l'hébreu biblique, l'hébreu de la Mishnah, l'hébreu moyenâgeux et l'hébreu moderne. Ça fait 4. Vous avez donc au moins 4 sortes d'hébreu. Oui. Oui, justement. Mais ce n'est pas qu'il fait descendre la matière, il fait descendre la pluie. C'est tout. La pluie, c'est une résurrection. Justement, je voulais éviter cette interprétation-là. La pluie, c'est une forme de résurrection des morts. C'est-à-dire, nous avons l'expérience vécue de quelque chose de mort qui revit. La terre était assoiffée, et puis, à nouveau, elle est irriguée. Et on dit aussi Moridatal, qui fait descendre la rosée. Ça, c'est une allusion très forte à ce qu'on appelle la rosée de résurrection qui viendra à la fin des temps. Viendra un temps où une rosée tombera du ciel pour faire ressusciter les morts. Oui.
Si on dit que c'était quand même une force absolue de Dieu, pourquoi il a donné aussi cette capacité à certaines personnes?
Il a le droit de déléguer à qui il veut, il ne va pas l'empêcher.
Ça veut dire qu'ils ont le...
Quoi, Eliyahu HaNavi, par exemple?
Les Amoraïm ont dit qu'ils avaient ce pouvoir.
Ah, oui, on dit que les Amoraïm, ils savaient faire ressusciter les morts. Les Amoraïm sont les sages du Talmud, sages de la Gemara. Ils savaient ressusciter les morts. La question a été posée, c'est une question analogue a été posée au Maharashtam. Le Maharashtam, vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Non, après vous ne posez pas la question. Le Maharashtam, c'est Rabbi Shmuel di Medina. Rabbi Shmuel di Medina était un des poskim de Salonique, dans les Balkans. Et c'était un des grands maîtres, il était un quasi contemporain de Rabbi Yosef Karo. C'était un élève de Rabbi Yosef Taititzak. Oui, bien sûr. Rabbi Yosef Taititzak était un des très grands maîtres talmudistes de son temps, et pour qui Rabbi Yosef Karo avait une très grande crainte, pourrait-on dire. Rabbi Yosef Taititzak, qui est d'ailleurs un des ancêtres de Herzl. Ah oui. C'est bon de savoir tout ça. En tout cas, pour revenir donc à Rabbi... le Maharashtam. La question a été formulée de manière plus précise. On lui a demandé, mais pourquoi, si n'importe quel Amora, après le premier semestre d'Amoraïsme, il pouvait ressusciter un mort, alors pourquoi est-ce qu'on fait tellement de boucans pour Eliyahu HaNavi et Elisha qui ont ressuscité des morts? Il n'y a rien de spécial, puisque tout le monde sait le faire. Réponse du Maharashtam, qui c'est Rabbi Shmuel di Medina, qui répond, oui, mais c'est pas la même chose. C'est quoi un mort? La Guémara dit, les méchants, même de leur vivant, sont appelés morts. Et les justes, les tzadikim, même après leur mort, sont appelés vivants. Alors c'est quoi ressusciter un mort? C'est faire teshuvah à quelqu'un. Or, n'importe quel amora savait faire teshuvah à n'importe qui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ils avaient cette capacité-là. Et c'est pour ça, par exemple, que la Mishnah dit qu'une des formes de l'hérésie, c'est celui qui dit En tehiyat ametim mina Torah. Alors on traduit d'habitude celui qui dit qu'il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah. Mais en vérité, il faut lire ça autrement. C'est celui qui a une Torah qui ne sait pas ressusciter les morts. Vous comprenez le problème? Quelqu'un a la Torah, mais il ne sait pas ressusciter les morts avec, c'est très grave. C'est un hérétique. Ah oui, donc si tu as de la Torah, tu dois savoir ressusciter les morts. C'est pas très difficile. Il faut savoir faire teshuva aux gens. Comment on fait ça? Eh bien simplement, il faut les écouter. Si tu es capable d'écouter les gens, tu es capable également de parler à leur cœur. Oui. Oui. On peut être méchant et tzaddik à la fois. C'est ça que tu dis? Comment cela? C'est comme si tu nous disais on peut être noir et blanc à la fois, une porte peut être ouverte et fermée à la fois. Je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, le racha, c'est celui qui fait le mal. Le tzaddik, c'est celui qui fait le bien. Alors, dès que quelqu'un fait le mal, ce n'est pas un tzaddik. On ne peut pas être tzaddik et racha à la fois. C'est impossible. Ce sont des définitions antithétiques, comme on dit. Enfin, à moins que tu veuilles dire quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, d'accord ? On peut. Hein ? Un rachat qui fait des mitzvot. Un tzaddik qui fait des averot n'est pas un tzaddik. Le Benoni, c'est un tzaddik. C'est-à-dire, si on prend la définition du Tanya. C'est-à-dire, dans le Tanya, il y a tout un débat autour de la définition de tzaddik, Benoni et rachat. Et il explique en fait ce qu'on appelle le Benoni, c'est une des formes du tzaddik. Mais il y a une différence entre le tzaddik et le Benoni, enfin le tzaddik habituel et le Benoni, c'est que le Benoni est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal, mais qui est en conflit avec lui-même. Tandis que ce qu'on appelle le tzaddik absolu, c'est celui chez qui il y a une harmonie totale. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc on est soit tzaddik, soit Benoni, mais d'une manière c'est un tzaddik. Et dès qu'on fait une transgression, on est dans la catégorie du rachat. N'est-ce pas ? C'est ça que ça veut dire. Hein ? Donc ça n'existe pas. Un rachat. Évidemment, tous les rachats, ils font des mitzvot. Non, aucun tzaddik ne fait de avera. Parce que si, dès qu'il fait une avera, il n'est plus tzaddik. C'est-à-dire, il est rachat à ce moment-là. Voilà. Tu dis qu'il y a plus de rachaïm que de tzaddikim. Sur quoi fondes-tu cette affirmation ? Ouais, c'est un sentiment, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on fait une avera, il y a également un moyen d'effacer ça tout de suite. Ça s'appelle la teshuva. D'accord ? C'est-à-dire le type est très embêté. On lui dit, voilà, j'ai fait une avera, qu'est-ce que je fais ? Oh, tu n'en fais pas, tu as fait teshuva, teshuva. Oui. C'est comme le type... Oui, c'est ça. C'est le type qui a essayé de se pendre. Il n'a pas réussi. Il va voir le rabbin, monsieur le rabbin, je me suis pendu. Ben, repends-toi. Allez, allez, allez.
Ah oui. J'ai bien compris ce que vous avez dit à Hanouka. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Parce que tous ceux qui ne font pas la Torah sont considérés comme.
Ah, aujourd'hui, c'est rare le rachat. Oui, le rachat est un produit rare. Oui, c'est vrai.
Ça veut dire qu'on peut continuellement en choua et
en choua. Oui, absolument. Exactement. Donc. Oui. Oui, bien sûr, entre les deux, on est rachat. Oui, on peut changer d'état. Tzadik, rachat, etc. Mais non, c'est un peu dangereux, c'est un jeu dangereux parce qu'on ne sait pas très bien où est-ce que ça finit. C'est-à-dire, si par exemple, la Mishnah, elle dit, celui qui dit je vais pécher pour faire tes chouvas après, on ne le laissera pas faire tes chouvas, etc. D'accord ? Oui, mais la vie est faite comme ça, comme un balancier. J'ai pas compris. Ben, l'homme est jugé en fonction de ses actes, et c'est très simple. Voilà. Bon, continuons. Mechalkel Haim Behesed. Oui, quoi encore?
Si l'homme était équipé des chouvins, oui. Est-ce qu'il va toujours. Enfin, genre, en fait, est-ce que si.
C'est quoi, hein? Oui, il y en a verra, oui.
Maintenant, je fais des chouvins, je refais une.
Je comprends, oui. Bah, c'est une question de choix, ça dépend. Chacun sa trajectoire. Ça dépend des cas. Ouais, ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'il y a différentes trajectoires et différentes manières d'assumer la vie, etc. Bon, je reviens donc ici au texte. Mais Khalkel Haim Bechesed, quoi ? Si j'ai répondu. La réponse, c'est que ça dépend des personnes. Chacun a sa trajectoire. Il y en a qui ont des trajectoires ascendantes, il y en a qui ont des trajectoires cycliques, sinusoïdales, en collimation et tout ça. Toutes sortes.
Non, mais est-ce que est-ce que je progresse ou est-ce que je progresse pas?
Ben, ça dépend. Il y en a qui regressent, il y en a qui progressent.
Il y en a qui progressent.
Ça dépend qui tu es. Il y en a qui disons, recueillent ce qu'on appelle la morale de ce qu'ils ont passé. Et alors, dans ce cas-là, ils progressent. Voilà. Quoi ? On peut tomber aussi, ça dépend. On peut devenir méchant, c'est la chose. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre permet justement ce que tu veux tellement, c'est la progression continue. Mais la progression continue, elle n'est pas forcément linéaire. En ligne droite, elle peut être sinusoïdale. Mais il peut y avoir un sinus comme ça, et il y a un sinus comme ça. Et il y a aussi un sinus qui fait que parfois on tombe très bas, mais même le point le plus bas de la prochaine courbe, il est quand même plus élevé que le point haut d'une ancienne courbe. Enfin bref, il y a différentes manières. Voilà, ce sont des graphes. Oui, en fin de compte. Mais parfois, pour monter, il faut parfois descendre, il y a des tas de trucs comme ça. Bon, ouais. Ben, je voudrais continuer dans le texte, je peux hein? Tu me laisses, c'est très sympa. Mechalkel Haim Behesed. Il pourvoit la vie avec bonté. Mechaye Metim Berachamim Rabim. Il fait vivre les morts avec abondance de miséricorde. Ah bon? On avait déjà vu tout à l'heure les Mechaye Metim, c'était nous. Alors c'est quoi il y a ici des morts qui ont besoin de beaucoup de miséricorde pour vivre. C'est qui? Les méchants. Les Rechaim. C'est-à-dire, chez les Rechaim, il y a la patience. C'est-à-dire que le jour où donne la vie, bien qu'ils ne la méritent pas, mais ils vont la mériter un jour. Alors pour l'instant, il y a la miséricorde. Cette expression de miséricorde, on la trouve dans le Midrash, par exemple, à propos de la création du monde. Le Midrash dit « Batechila ala bemarchavto shel hakadosh baruch hu livro et haolam bemidat hadin » Au commencement, Dieu a eu l'intention de créer le monde sur la rigueur. « Ra shena olam itkel » Il a vu que le monde ne tient pas. Ne tiendrait pas. « Shitef midat harachamim » Il a associé la miséricorde « Venitkayem haolam » et le monde a tenu. Alors, c'est quoi la miséricorde en question? D'abord, on voit que la miséricorde apparaît sur un arrière-plan de rigueur. Il y a la Midat Hadin, et dans l'intérieur de la Midat Hadin, il y a une bulle de miséricorde. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, ça veut dire qu'il y a trois moments. Il y a le premier moment qui est la volonté de créer le monde. Cette volonté de créer le monde, c'est quoi? C'est du chesed, c'est de la bonté absolue. Cette bonté se traduit à travers la Midat Hadin, la rigueur. C'est-à-dire, il veut créer le monde, mais il veut que le monde soit basé sur la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des bontés que le monde soit basé sur la rigueur. Parce que la rigueur implique le mérite. Et c'est plus grand de recevoir quelque chose parce qu'on l'a mérité que de le recevoir par grâce. N'est-ce pas? Si quelqu'un me dit, voilà, prends telle somme d'argent, tu peux en faire ce que tu veux. C'est de la générosité. Mais ce n'est pas la meilleure des choses qu'il peut me faire. Tandis que s'il me donne les moyens de gagner cet argent par mes efforts, quand je reçois cet argent, il est véritablement à moi, il est véritablement mérité. Et donc c'est beaucoup plus constructif.
Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça?
Bah, imaginez par exemple, je sais pas, quelqu'un est sur un trottoir, un clochard, vous lui jetez $1 million. Vous l'avez écrasé, ce type. Écrasé, le type, sa vie est fichue maintenant.
C'est pareil ce qu'il a fait, le monde niveau...
Oui, alors c'est que dans le monde, il y a la rigueur. C'est-à-dire que la vie est donnée au début gratuitement, mais pour la mériter après.
C'est pour ça qu'il a fauté Adam.
C'est pour ça qu'il y a la Midat HaRachamim, qu'il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qu'on appelle en français le temps. Et on nous laisse le temps. C'est-à-dire, Rachamim, c'est un singulier ou un pluriel?
Pluriel.
Un pluriel. Alors c'est quoi le singulier de Rachamim? Rechem. Rechem, c'est quoi? C'est la matrice. C'est la matrice. C'est-à-dire, l'enfant est gardé dans un rechem. Pourquoi est-ce que l'enfant est gardé dans un rechem? Parce qu'il ne peut pas affronter tout de suite la vie extérieure. Il faut lui donner le temps de se préparer. Donc il est dans le rechem, midat harachamim, pour pouvoir après affronter. Il viendra le moment de sortir, s'il croit qu'il y a une vie après la naissance. Et on avait déjà parlé, vous voyez le lien au début du cours. Et alors, il prouvera que maintenant, il est capable de confronter la vie extérieure. Donc, il y a d'abord Chesed, après vous avez Din, et après vous avez Rachamim. Rachamim, c'est donc le temps. C'est, on laisse le temps au rachat de faire Teshuvah. Parce que l'homme n'est pas capable d'assumer immédiatement les valeurs. C'est impossible pour lui. Oui. Oui, c'est la suite de l'histoire semi-humoristique que j'ai racontée tout à l'heure sur les jumeaux.
Vous n'avez pas fini. Vous avez dit le deuxième, il est dedans, il ne veut pas sortir.
Il ne veut pas sortir, oui, ben j'ai fini. C'est fini pour lui. Ouais. Ouais. Donc, Mechaye Metim Berachamim Rabim, c'est celui qui donne la vie aux morts avec grande miséricorde. Il s'agit ici des Rechaïm. Non, ça peut être les malades parce qu'après il y a écrit Somer Noflim Verofer Holim. Donc ce n'est pas les malades. Il y a dans le Midrash Rabba une histoire assez surprenante sur la création de l'homme. Je crois que vous en avez peut-être parlé quand Dieu a voulu créer l'homme et qu'il a interrogé les anges. Vous ne connaissez pas cette histoire? On en a parlé, n'est-ce pas?
Il leur a demandé si ça valait la peine.
Comment?
Il leur a demandé si ça valait la peine.
Oui, alors il y a eu un débat entre eux, d'accord? Et pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Parce qu'il a demandé ça à des anges contradictoires. Un ange qui s'appelait Chesed, et l'autre qui s'appelait Emet. Alors, vous comprenez qu'entre Chesed et Emet, entre la bonté et la vérité, ça n'allait pas. Et après, il a demandé à Tzedek et Shalom. Tzedek était pour, mais Shalom était contre. Et pourquoi? Parce que ça veut dire quoi qu'il faut demander aux anges? Ça veut dire que l'homme est fait pour réaliser les valeurs en question. C'est-à-dire, l'homme est fait pour réaliser le chesed, emet, tzedek et shalom. Et comme l'homme n'est pas capable de faire tout à la fois, alors les anges étaient contre. Akadosh Baruch Hu, entre-temps, comme ça il dit, pendant que les anges se disputaient, il a créé l'homme. Alors les anges étaient très embêtés, ils ont dit, mais enfin c'est quoi ces histoires? Tu nous as demandé notre avis, maintenant tu fais ce que tu veux. Et surtout, celui qui s'est le plus révolté, c'était Emet, contre tous. Et Akadosh Baruch Hu prend Emet et le jette au sol. Et alors les anges sont effrayés, ils disent, mais enfin, maître du monde, qu'est-ce que tu fais du critère de tes valeurs? Tu jettes ça, il n'y a plus rien. Si tu jettes Emet, il n'y a plus rien. Alors, quand je vous dis, Ta'ale Emet Minaretz, que la vérité monte de la terre, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Emet Me'eretz Titzmach, la vérité croissera. Enfin, va croître, quoi, c'est ça, à partir de la terre. C'est quoi la croissance? La croissance, c'est le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas accomplir tout de suite l'unité des valeurs, mais si on a le temps, on le peut. Donc, ça s'appelle Midat Arachamim. Les anges ne sont pas capables de ça, les anges sont des absolus, donc ils ne connaissent pas le temps, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle en philosophie la durée. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais l'homme vit dans la durée, il est capable donc de réaliser l'unité des valeurs. C'est ça donc le Arachamim Rabim. Somer Noflim, salut. Somer Noflim, celui qui soutient ceux qui trébuchent. Verofer Holim, qui guérit les malades. Ou Matir Asurim, ça veut dire quoi Matir? Il libère Asurim, les prisonniers. Ou Mekayem, donc tout ça ce sont des formes de mort, d'accord? La maladie, la prison, la chute, tout ça ce sont des formes de mort et Akadosh Baruch Hu, il ressuscite tout ça. Umkayem emunato lishene afar, et qui respecte son engagement envers ceux qui dorment dans la poussière. Ah bon? Ça veut dire quoi ça? Il respecte son engagement envers ceux qui dorment dans la poussière. La résurrection des morts? Ben pas du tout. D'abord, la mort, ça ne s'appelle pas dormir. Quand on est mort, ben on est mort. Envers qui il a pris un engagement? Est-ce qu'on a vu un engagement? Ah, très bien. Donc, c'est l'engagement qu'il a pris envers les Avot. Et eux, effectivement, ils ne sont pas morts. Ils dorment, eux. Ils sont appelés les dormeurs de Hevron dans le Zohar, oui. Yeshene Admat Afar. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont des dormeurs. Ils ne sont pas vraiment des morts. Mais où est-ce qu'on a vu qu'il y a un engagement envers des dormeurs dans le sol? C'est envers les Avot. C'est quoi l'engagement qu'Akadosh Baruch Hu a pris envers les Avot?
La terre d'Israël.
C'est donc quoi quand il accomplit sa promesse envers les Avot? C'est quoi? c'est l'état d'Israël. D'accord ? C'est-à-dire, l'état d'Israël est une forme de résurrection des morts aussi, puisque une nation était morte et qu'elle a ressuscité. Alors, on peut, pendant très longtemps, dans les universités, dans le monde, on enseignait l'hébreu avec, dans les langues mortes. Hein ? Les langues mortes, par exemple, le latin, le grec et l'hébreu. Et puis, brusquement, cette langue est redevenue vivante. Un peuple qui était mort est redevenu vivant. Hein ? C'est intéressant, quand même. Il y avait un goy du nom de Arnold Toynbee. Vous avez entendu parler de lui ? Arnold Toynbee était un historien, britannique, catholique d'ailleurs. Et c'est un des géants de l'historiographie au XXe siècle. C'est un des premiers qui a essayé de trouver des lignes de force de l'histoire. C'est-à-dire de comprendre comment est-ce que l'histoire fonctionne. Il y a des tas d'événements, des événements, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des lignes de force? Alors pour ça, il a écrit une vraie encyclopédie à lui tout seul, sur quelque chose comme 36 civilisations différentes. C'est énorme. Il est arrivé à une conclusion, vous allez vous dire que c'est banal, mais ça marche quand même. Il dit, voilà, que toute civilisation passe par trois phases. La première phase, c'est une gestation. C'est-à-dire, il y a une civilisation, un peuple qui est en train de se former. Ça prend du temps, des siècles, ça prend, mais ça marche. Après vient un moment très court qu'on appelle l'apogée, pendant lequel c'est comme si quelque chose qui était en grossesse s'était mis à naître. Et c'est le moment où cette civilisation donne sa contribution spécifique à la civilisation universelle. Par exemple, chez les Grecs, la philosophie. Chez les Romains, le droit romain. Il y a eu un moment où quelque chose a été donné à l'histoire. Et après, on entre dans la troisième phase, c'est la décadence. C'est-à-dire, puisque c'est donné, en fait, ça peut disparaître. Et puis, Arnold Toynbee a remarqué que cette règle n'était pas vraie pour le peuple juif. Le peuple juif a eu sa gestation, son apogée de son point de vue, c'est la naissance de Jésus. Et puis, le peuple a oublié de disparaître, contrairement aux règles. Alors, il a inventé une nouvelle notion. Il a développé cette idée qu'il y avait des peuples fossiles et que le peuple juif s'était fossilisé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus de sens à son existence, mais il continue à exister mécaniquement. Ça continue, ça marche, quoi. Mais en fait, ce n'est pas un peuple vivant, c'est un peuple mort qui donne l'apparence d'un être vivant. C'est un robot. Toynbee a eu un problème, c'est que de son vivant, il y a eu la résurrection de l'État d'Israël. Ça, c'est un problème. Un fossile ne commence pas à s'agiter de cette manière. Alors, il a trouvé une nouvelle théorie dans laquelle il a expliqué la chose suivante. C'est qu'en fait, le peuple juif est un vrai peuple fossile, mais les Allemands, c'est un peuple vraiment vivant. Or, ce peuple vraiment vivant s'est acharné avec violence et cruauté sur ce fossile, la Shoah. Et donc, il a injecté de la violence dans les veines de ce mort, et cette violence est appliquée contre les Arabes en Palestine. Mais en fait, ce n'est pas les Juifs qui font la guerre, ce sont les Allemands qui font la guerre aux Arabes par un corps juif mort interposé. Vous avez compris? Ça, il a dit ça. Bon. Ah, oui, pas bien, non, pas bien, visiblement. Ouais. Oui, il est mort. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, à l'époque, quand il a dit ça, il était au Canada. C'était à Toronto. Et il y avait là-bas l'ambassadeur d'Israël à l'époque, c'était Yaakov Herzog. Yaakov Herzog, dont le frère Chaim Herzog est devenu président plus tard, qui était d'ailleurs un juif religieux, même il avait un diplôme rabbinique, a attaqué Toynbee dans un débat public. Il lui a dit, voilà, puisque, attendez la gravité de ce que vous dites, je vous invite à un débat public. Alors, débat public, ça a été un truc absolument génial. Yaakov Herzog est sorti là, haut la main. Oui, il y a le texte. J'ai même entendu l'enregistrement. Ça se trouve dans son livre « Am Levada Dishkon » de Yaakov Herzog. Et ce qui est intéressant, c'est que... D'ailleurs, il a fini en déclarant « Lo amut ki ehyeh va sefer ma'aseya »« Je ne meurs pas, je vivrai. » Et je vais vous raconter les prodiges de l'Éternel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, d'abord, cette idée que le peuple juif serait fossilisé, ça correspond tout à fait à la mentalité chrétienne. Mais ce qui est intéressant de voir, d'abord, c'est que, vous voyez bien que la résurrection d'Israël est une résurrection des morts. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est le prophète Ézéchiel qui en a parlé dans sa vision des ossements desséchés. Petite anecdote, vers la fin de sa vie, Toynbee a changé d'opinion. Il s'est rapproché de plus en plus du judaïsme. Intéressant quand même. Ouais. Voilà. Micha Mocha Baal Gevurot. Donc vous avez ici pour l'instant trois formes différentes de résurrection des morts. La première, c'est la résurrection des morts en permanence. C'est la vie qui nous est donnée. La deuxième, c'est pour les Réchaïm. La troisième, c'est le sionisme. Micha Mocha Baal Gevurot. Qui est comme toi, possesseur des puissances? Ou Midomelar, qui te ressemble? Meler, roi, mais mit umhaye. Là, c'est autre chose. Qui met à mort et qui ressuscite. On parle ici de Dieu en tant que celui qui donne la mort et qui donne la vie. Mais mit umhaye. Umatzmiach Yeshua, et qui fait croître la délivrance. Alors c'est quoi ça? Memit umhaye umatzmiach Yeshua. Vous voyez ici, c'est pas très clair, mais en tout cas ce qui est important, c'est que le memit umhaye en question, il donne la mort, il donne la vie, se situe juste avant la croissance de la rédemption. C'est donc, ça fait allusion à un événement donc traumatique, oui, ça fait pas, c'est donc la Shoah. Il met à mort, il fait vivre. Ou bien ceux-ci sont livrés à la mort et ceux-ci sont livrés à la vie. Ça veut dire que juste avant la rédemption, il se produit un événement tragique pour le peuple juif, dans lequel une partie du peuple juif part et une autre partie reste en vie. Soit Mémit ou Mechaye. Exactement. Il parle de cette situation où une partie du peuple a été emportée et une autre partie n'a pas été emportée. D'accord? Mémit ou Mechaye. Mais ça aussi, ça fait partie de la résurrection des morts, ça fait partie du processus. Ou Matzmiach Yeshua qui fait croître la délivrance. Parce que quand il accomplit son... Tu demandes pourquoi ça ne vient pas avant? Parce que quand il accomplit sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière, il a commencé à le faire avant la Shoah. D'accord? Veneemanata lehachayot metim. Tu es fidèle pour faire revivre les morts. C'est quoi? De quel événement s'agit-il?
La véritable cette fois,
évidemment. Léa Hayot, c'est un futur. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en français l'infinitif. L'infinitif, c'est, en hébreu, on le fait en rajoutant un lamed à la racine, n'est-ce pas? L'ishmor, l'e'echol, la asot. Mais le lamed en question, il est en fait quasi identique à un futur. Du point de vue grammatical. Ça serait des développements un peu compliqués, je ne vais pas les faire. Mais le lamed, c'est une forme du futur. Donc, leha hayot metim, pour faire revivre les morts, il s'agit ici dans le futur. D'ailleurs, un des indices de la nature futuriste du lamed, c'est le fait que c'est la seule lettre qui dépasse la ligne, vers le haut. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui attrape le monde à venir, le lamed. Venemanata le achayot metim. Baruch ata Hashem mechaye metim. Tu es source de bénédiction qui vient à moi en tant que miséricorde, mechaye metim, qui fait vivre les morts. Là c'est la sixième fois. De quoi s'agit-il? On a fait cinq résurrections des morts là pour l'instant. Et la sixième c'est quoi? Ben c'est tout à la fois. C'est dans la bracha, c'est dans la clôture de la bracha. Il faut bien récapituler, n'est-ce pas? Alors c'est une récapitulation de toutes les formes de résurrection des morts. Voilà, donc on a compris un peu ce que c'est que Tichiat Hametim et que ce qui signifie cette beracha. Jusque-là, vous avez suivi? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.